Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal au micro Lievin Bouinga. D'abord les titres, la synergie des syndicats des enseignants du Congo a décidé de durcir la grève dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est le résultat d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche à Beni. Des combats s'intensifient entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo dans le territoire de Masisi. Des détails dans ce journal. Et puis notre invitée assez particulière, elle fabrique des craies dans le Maniema. Nous allons découvrir ensemble la sœur Marie-Bernard Alima, superviseure générale des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde. Encore une fois, bonjour. La synergie des syndicats des enseignants du Congo a décidé de durcir la grève dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est le résultat d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche à Beni. Pendant ce temps, à Goma, certaines autorités scolaires envisagent de remplacer les enseignants grévistes. Une semaine après la rentrée scolaire dans le pays, les syndicats des enseignants annoncent l'intensification de la grève dans plusieurs autres régions de la République. Le point avec Sadiki Aboubakar.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire dimanche à Beni, la synergie des syndicats des enseignants du Grand Nord Kivu a décidé de durcir leur mouvement de grève. Ghislain Bambiri-Kiré, porte-parole de la synergie, explique les raisons de cette radicalisation.
De toutes les promesses du gouvernement, rien n'est fait jusque-là. Après analyse, les enseignants ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève jusqu'à ce que la solution concrète soit trouvée.
À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la grève se poursuit dans la plupart des écoles publiques. Le chef de la sous-division de l'EPST Karisimbi 1 menace même de remplacer les enseignants grévistes. Dans le Congo central, la situation est similaire. Lors d'une assemblée générale dimanche, la synergie des syndicats des enseignants a également décidé de poursuivre la grève. Voici les déclarations de Simon Siloulou qui a lu le communiqué final.
Le gouvernement reste immobile dans les mouvements de pouvoir payer. L'enseignant aussi reste immobile depuis la maison jusqu'à ce que nous allons toucher à main la promesse. Les jours suivants, les enseignants reprendront le chemin de l'école.
La grève se poursuit également à Bukavu dans le sud Kivu. Cependant, les parents du lycée Thérésie, une école conventionnée catholique, ont décidé de reprendre la prise en charge des enseignants pour assurer la continuité de l'éducation de leurs enfants. Les syndicats des enseignants d'Ikwilu se sont également réunis dimanche à Bandunduville et ont décidé de ne pas reprendre les cours. En revanche, à Kananga dans le Kasaï et à Bunia en Ituri, la grève n'est pas vraiment ressentie. À Kalemie, dans la province de Tanganyika, les cours ont repris ce lundi dans la plupart des écoles conventionnées catholiques à la suite d'un appel du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sinecat. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Nous allons cette fois-ci rester toujours à Beni pour voir ce qui se passe dans une école. Suivez ce reportage.
Sur les 6 écoles publiques de la place que nous avons visitées ce matin, 4 suivent les mots d'ordre des grèves lancées par leur syndicat. Seules 2 écoles fonctionnent plutôt normalement. Un enseignant rencontré à plein cours explique sa motivation.
Nous sommes en train d'enseigner, c'est parce que nous savons que notre gouvernement, il est ce qu'il est. Et à rapport de cela, vit des différentes situations qui se passent dans cette contrée ici. Les guerres, les arrêts intempestifs organisés par exemple, des mouvements de presse, des groupes de pression écossais. Nous avons jugé mieux, nous, personnellement, de reprendre avec le chemin de l'école. C'est pour prévenir à des éventuelles situations qui peuvent aussi avoir pitié des enfants.
Les élèves des écoles en grève qui viennent et retournent à la maison sans étudier parlent d'une grève qui les pénalise. L'une d'elles que nous avons rencontrée à l'entrée de l'Institut Bungu explique ce désarroi.
Les enseignants ne sont pas à l'école. Maintenant, nous sommes rentrés. Nous venons de faire presque une semaine. Nous arrivons, les enseignants ne sont pas là. C'est seulement le bureau qui est ouvert. Nous regrettons que les écoles privées soient en train d'étudier, mais nous sommes là toujours, sans rien faire. Nous demandons alors au gouvernement de répondre à leurs demandes.
Nord Kivu toujours, certaines autorités de l'EPST mettent en garde les enseignants qui ne veulent pas rejoindre leur poste depuis la rentrée des classes le 2 septembre dernier. Tous les récalcitrants seront déclarés déserteurs et se feront replacer dans le cas échéant par des remplacés dans le cas échéant par de nouvelles unités conformément aux textes légaux. C'est selon l'esprit du communiqué rendu public le 6 septembre dernier par le chef de la sous-division de l'EPST, Karissim Bi 1, en ville de Goma. Une mesure contestée par les syndicats des enseignants. Le point avec Gabriel Ouamenia.
Le chef de la sous-division de l'EPST, Karissim Bi 1, qui confirme l'authenticité de ces documents, précise que le monitoring des absences des enseignants a commencé dans les écoles. Jacques Makelele affirme que quelques écoles, tant primaires que secondaires de sa juridiction, fonctionnent sans encombre. C'est le cas de l'Institut de Goma, l'une des plus grandes écoles publiques et officielles de la ville de Goma. Ses responsables estiment que pour l'intérêt supérieur des enfants, les enseignants devraient réclamer tout en gardant leur poste. Contacté, le secrétaire provincial de la Force syndicale nationale Fosinate Nord Kivu parle d'un non-événement. Baala Chamavu Innocent affirme que le sous-prévôt de Karissim Bi 1 cherche à couvrir son poste car la grève est constitutionnelle. Ces syndicalistes met aussi en garde ses responsables de l'éducation contre toute poursuite judiciaire pour ce qu'ils qualifient d'excès de zèle qui enfreint aux dispositions légales, conclut Baala Chamavu. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Rentrée scolaire toujours en panne à Bassoko, une semaine après la rentrée scolaire 2024-2025. Les cours n'ont toujours pas commencé dans les écoles publiques de ce territoire de la province de la Tchopo. Les enseignants exigent d'abord le paiement de leur salaire du mois d'août dernier avant d'envisager toute éventuelle activité scolaire. La Caritas diocésaine de Kisangani, accusée d'être à l'origine des souffrances des enseignants, rejette toute responsabilité. Le point avec Jacques Mokonkole.
À Bassoko, territoire situé à plus de 260 km de Kisangani en aval du fleuve Congo, les élèves n'ont toujours pas repris le chemin de l'école une semaine après la rentrée scolaire officielle. Les chevaliers de la craie conditionnent le démarrage des enseignements au paiement notamment de leur salaire du mois dernier. Ils accusent la Caritas diocésaine Kisangani d'être responsable de leur malheur, comme l'explique le porte-parole de la synergie des syndicats du territoire de Bassoko, Blaise Bongele.
Le territoire de Bassoko a connu toujours les retard de paye, le salaire vient qu'après des mois. Comment est-ce que nous allons survivre? Comment est-ce que nous aurons le courage de travailler? La Caritas Kisangani nous fait souffrir expressément.
Réponse du berger à la bergère. La Caritas diocésaine dit avoir déjà expliqué aux enseignants concernés, et cela à maintes reprises, qu'elle niait pour rien en ce qui lui est reproché. L'abbé Ferdinand Batoubou, coordonnateur de la Caritas diocésaine Kisangani.
Les retards, ce n'est pas nous qui retenons les salaires des enseignants. Les problèmes des retards, c'est au niveau du gouvernement central.
Même si le salaire attendu du mois d'août parvenait à être payé, les enseignants de Bassoko déclarent qu'ils ne pourront reprendre les cours qu'après avoir touché la paye complémentaire promise par le gouvernement. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Cap.
Sécurité, des combats opposent depuis tous lundi les rebelles M23 soutenus par le Rwanda aux volontaires pour la défense de la patrie, Wazalendo, dans le territoire de Masisi. Nous sommes là au nord Kivu. C'est précisément dans l'agglomération de Muheto et autres villages environnants dans le groupement de Bachali, KMB. Selon plusieurs sources locales, ces combats qui ont commencé depuis le début de ce mois de septembre dans cette zone ne font que s'intensifier. Reportage Bernardin Diang.
C'est depuis 3h du matin ce lundi que d'intenses combats ont de nouveau repris dans le village Mueto, Kanzenze Kanyati et Nyamitaba, entre autres, dans cette partie du groupement Bachali KMB. Les rebelles du M23 RDF auraient repris les attaques contre les groupes armés après d'autres combats presque toute la journée hier dimanche entre les mêmes belligérants dans la même zone. Nos sources supposent que cette rébellion soutenue par le Rwanda attaquerait en représailles après avoir subi de lourdes pertes lors des affrontements de dimanche. Depuis le 1er septembre, les combats parfois sporadiques opposent les rebelles du M23 aux différents groupes armés, notamment autour de Kibirizi, dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, ainsi que dans les deux groupements de la chefferie de Bachali, en territoire de Masisi. Plusieurs témoignages font état d'un renforcement inquiétant des positions des rebelles en hommes et en armement dans ces zones, ce qui, pour nos sources, mettrait de plus en plus en péril le processus de paix en cours à Luanda, en Angola. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis l'ONG PPSSP vole au secours de plus de 3800 ménages de retourner en Ituri. Les bénéficiaires ont reçu des bâches, des outils aratoires, des ustensiles de cuisine, des kits d'hygiène pour femmes. Cette assistance humanitaire entre dans le cadre du projet de l'UNICEF Réponse Rapide. Et il faut noter que ces heureux bénéficiaires sont des Bakonde et Itendei dans le secteur de Banyali-Kilo, dans le territoire de Djougou. Selon l'ONG, l'objectif est de soulager les souffrances de ces personnes vulnérables qui ont presque tout perdu à la suite des exactions des groupes armés. Le point avec Ezekiel Mouzaglia.
C'est depuis le mois de juillet dernier que ces déplacés ont fui les attaques des groupes armés dans les entités de Lodjo, Galaï, Itendei, plutôt des entités du secteur de Banyali-Kilo dans le territoire de Djougou. Depuis leur retour dans leur milieu d'origine, certains passent la nuit sous des tentes de fortune exposées aux intempéries dans la forêt d'Amolinga. D'autres vivent dans une précarité extrême dans des familles d'accueil. Mais pour tous, cette assistance constituée d'articles ménagers essentiels ainsi que des bâches et du pain béni. Willy Ngeli, l'un des bénéficiaires.
À tout cas, ils ont beaucoup garanti avec de nos vivres ici à Itendé et à Kilo, Bakonde, Kilo Mission. C'est presque pas moins de 3500 ménages qui ont réussi de nos vivres. Ces gestes, c'est vraiment à louer. Il y a des bidons, des couvertures, des pioches, des pagnes, des choses qui peuvent alors beaucoup aider dans la cuisine. L'UNICEF doit encore faire des plaidoyers pour de plus de ce qu'il a fait à Kilo et à Itendé, Bakonde, etc.
Plus de 14 000 familles de déplacés vivent dans des conditions difficiles, notamment dans la région minière de Mungwalu, depuis la dernière attaque de Lodjo qui avait coûté la vie à de nombreux civils et l'incendie de leur maison. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
La situation humanitaire des déplacés s'enlise dans le territoire de Bagata, en province du Kwilu. Ils sont plus de 62 000 déplacés internes qui ont fui les incursions des miliciens Mobondo entre mai et juillet dernier à Kwamout, au Maïndombe et dans cette partie du secteur de Wamba. Ces personnes vivent principalement dans les villages Fabondo, Fapamba, Fapanda, Fasila, Fatobo, Fatundu, Misei, Beno et autres et sont dépourvus de tout. C'est ce qui ressort du récent rapport de la mission d'évaluation rapide effectuée par OCHA et d'autres organisations humanitaires. Le point focal de l'ONG Cause Rurale, Brunel Ndombe, qui a fait partie de l'équipe, explique au micro d'Irène Mboma Luzolo.
Cette mission était une mission humanitaire d'évaluation rapide multisectorielle. Vous savez que depuis mi-mai 2024, ces déplacés souffrent aujourd'hui. Ils n'ont pas accès, bien sûr, à l'eau potable, ils n'ont pas accès aux soins de santé, ils n'ont pas accès à l'éducation, surtout les enfants, à l'âge de la scolarité. Ils n'ont pas accès à la nourriture, ils n'ont plus rien, même les AME, les articles ménagers essentiels. Ils n'en ont pas parce que depuis ces mouvements, ils ont tout abandonné, même leur champ et tout. Et aujourd'hui, il y a une insécurité alimentaire et dans le zone de santé de Kikongo et de Bagata, ces déplacés souffrent tellement des cas de malnutrition sévère, aiguë et modérée également. Nous plaidons au gouvernement congolais que le gouvernement congolais puisse prendre les choses en main. Parce que nous sentons qu'il s'intéresse que de la partie est du pays, mais la partie ouest n'est pas vraiment du tout comptée dans le plan d'action du gouvernement. La situation aujourd'hui est catastrophique. D'autres, surtout les jeunes filles vivent aujourd'hui des sexes de survie. Ça prouve en suffisance que le besoin humanitaire est vraiment d'urgence dans ce coin. Il y a les personnes de troisième âge et surtout les enfants qui sont exposés à des maladies.
Santé à présent, deux cas suspects de monkeypox enregistrés dans le territoire de Kabalo, province du Tanganyika. Dans une déclaration hier à Radio Kapi, l'administrateur du territoire annonce que des échantillons sont déjà envoyés à Kinshasa. Ils sensibilisent la population au respect des mesures barrières. Le point avec Paulin Munanga.
Dans un communiqué rendu public ce samedi, l'administrateur du territoire de Kabalo a annoncé la détection des deux cas suspects d'impox ou la variole des singes. Prince Sengo décrit les signes de cette maladie et appelle ses administrés à plus de vigilance et au respect des mesures barrières, lit-on dans ses communiqués. Il ajoute que les deux cas suspects sont isolés à l'hôpital général de référence de Kabalo.
À notre niveau, on n'a pas la latitude de confirmer. Mais tous les signes possibles que nous avons observés sont des signes qui témoignent noir sur blanc qu'il y a déjà ces cas de maladie. J'ai élaboré ce communiqué, c'était à connaissance de cause. Pour sensibiliser la population à être toujours vigilant. Le temps pour nous de voir la suite parce que les éléments ont été déjà envoyés à Kinshasa et que les deux personnes continuent à être gardées d'une manière un peu isolée pour éviter le contact.
Rappelons que notre cas suspect d'impox a été enregistré dans le territoire de Moba il y a quelques semaines. Kalemi Ponemunanga, Radio Okapi.
À Kananga, le conseil régional des ONG de développement KNOG se dit vivement préoccupé par le retour des pluies, cauchemar des habitants de la ville. Dans un communiqué de presse, en effet, cette plateforme constate que la saison sèche est passée et de grands travaux n'ont pas été entrepris pour stopper différentes érosions qui détruisent la ville et sa population. Indigné et appelant à la prise de responsabilité, le secrétaire exécutif provincial du KNOG, Kasaï Central, rappelle les autorités la tragédie qui avait frappé Kananga le 26 décembre 2023 lors des pluies diluviennes ayant endeuillé et paupérisé une centaine de familles. Les propos d'Albert Kyungu sont recueillis par François Kadima.
Les retours de pluie, c'est les retours des cauchemars. L'espoir suscité par les nouveaux dirigeants s'est vite volatilisé, laissant la population dans le désespoir. On a assisté soit à l'arrêt, au gel, ou encore à la suspension des travaux qui avaient démarré sur quelques sites. Sous divers financements, nous pouvons citer les érosions de Bianchi, de Bethel, de Lazda, exécutées par l'OVD, sous financement du FONER, les érosions de la gare SNCC, aéroport national de Lukonga au point kilomètre 706, qui sont à l'arrêt pour faute de gestion depuis plusieurs mois, compromettant du coup les débits des travaux des autres érosions prioritaires qui ont été déjà identifiées. Il est fort déplorable de constater que toute la saison sèche est passée sans que des actions d'envergure ne soient menées pour saisir cette opportunité et mettre les bouchées doubles afin d'atténuer la progression des érosions et réduire leurs effets néfastes sur les populations riveraines exténuées et stressées chaque jour.
Autre nouvelle en sport, les léopards seniors de la République démocratique du Congo seront reçus par les Walia d'Éthiopie ce lundi soir au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie dans le cadre de la deuxième journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Maroc 2025. Les fauves congolais livrent cette rencontre 72 heures après la victoire enregistrée devant la Guinée 1-0 vendredi dernier au stade des Martyrs de Kinshasa lors de la première journée de cette compétition avec un but signé Edo Kayembe à la 27e minute. À ce jour, la RDC est en tête de classement avec 3 points devant l'Éthiopie et la Tanzanie avec 1 point chacun et la Guinée est dernière avec 0 point.
Actualité internationale.
Au moins 52 personnes ont trouvé la mort ce dimanche après l'explosion d'un camion citerne dans le nord du Nigeria à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail, ont déclaré les secours ce lundi. L'incident se produit lorsqu'un camion citerne chargé de carburant est entré en collision avec un camion remorque chargé de voyageurs, a indiqué un peu plus tôt un communiqué de la SEMA. Des deux autres véhicules, une grue et une camionnette, ont aussi été impliqués dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives.
L'invité.
Je le disais en ouverture de ce journal, notre invitée, c'est la sœur Marie Bernard Alima, superviseure générale des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde. Elle nous parle de la fabrication de craies et la transformation de leurs produits à Kinkungwa, village situé à plus de 100 km de Kindu. Sœur Marie Bernard Alima s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Sœur Marie Bernard Alima, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans votre congrégation ici. Vous êtes entourée par des boîtes de craies. C'est vous-même qui fabriquez ces craies?
Oui, nous fabriquons la craie. Nous appelons ça Chakinzuri Akwetu Kinkungwa. C'est une craie de haute qualité que nous avons décidé de commencer la fabrication des craies pour renforcer l'éducation des enfants et surtout les écoles qui sont dans les périphéries, loin des centres-villes. Nous en produisons pour essayer de renforcer le secteur éducationnel.
Ma soeur, où est-ce que vous trouvez les matières premières pour la fabrication de ces craies?
C'est ça le grand problème que nous éprouvons. Nous achetons à Goma, à Kinshasa, les matières premières, mais nous sommes en train de réfléchir avec le gouverneur, ça c'est parmi les acquis, c'est qu'on va voir comment avoir produire nous-mêmes la matière première pour la fabrication des craies. Parce que c'est une matière qui est rare, qu'on ne trouve pas, la craie, et c'est pour ça qu'on se plaint beaucoup que les enfants ne savent pas lire et écrire par manque de craie. Ça coûte trop cher, et alors nous allons réfléchir ensemble sur la possibilité d'en trouver davantage.
Maintenant, ces craies que vous fabriquez ici, vous les vendez ou bien vous donnez gratuitement aux écoles parce que vous contribuez à l'amélioration de l'éducation des enfants?
Mais comment on peut distribuer? On n'a jamais reçu un appui pour faire ce travail-là. C'est nous-mêmes avec nos efforts personnels. C'est pour ça que même si c'est un prix assez réduit, mais quand même, nous vendons pour que nous puissions encore acheter la matière première pour en produire davantage. Mais ça, la demande est très élevée par rapport à la production. C'est pour ça que le gouverneur a dit qu'ils vont nous accompagner pour réfléchir sur la possibilité d'en produire davantage et d'alléger effectivement la tâche des écoles.
Comment vous organisez la vente de ces craies?
La vente de ces craies, nous en parlons aux écoles. On passe d'une école à une autre et nous passons le message seulement dans les églises, au niveau de l'inspection, mais localement. On ne sait pas faire ça à grande échelle parce qu'on ne produit pas beaucoup. Mais ceux qui découvrent ça nous encouragent et disent que ça ne peut pas rester un produit local, qu'il faut étendre ça même au niveau de la province. Et c'est pour ça que ça nécessite une grande contribution, un appui pour que nous puissions en produire davantage.
Ma sœur, dans votre congrégation, nous voyons aussi des gis, nous voyons des tomates, que vous êtes aussi dans le domaine de l'agriculture.
Oui, non seulement de l'agriculture, mais de la transformation. Nous travaillons sur la chaîne des valeurs. Nous avons des arbres fruitiers et nous produisons aussi les jus. Nous avons des tomates. L'ambition pour nous, c'est de produire aussi des tomates concentrées. Et nous avons des champs de maïs pour la fabrication de pop-corn. Nous fabriquons aussi des biscuits et ce qu'ils appellent ce soma, donc la bouillie pour les enfants qui souffrent de malnutrition. Ce qui est intéressant, c'est que les produits, la matière première pour fabriquer tout ça, ça provient de nos champs. Donc, nous sommes engagés dans l'agriculture et pour produire la semence, comme pour être des agro-multiplicateurs, mais aussi pour la transformation des produits que nous prélevons de nos champs.
Cette transformation, vous le faites comment? Vous avez des machines, c'est industrialisé?
Ce n'est pas encore industrialisé. C'est aussi parmi l'objet d'échanges avec le gouverneur. Comment trouver des machines de transformation? Ils ont déjà vu les champs, mais alors il faut transformer. Nous avons commencé de manière artisanale, mais vu la qualité et le besoin effectivement exprimé pour l'acquisition de tout ça, et surtout la demande au niveau de la population, il nous a encouragés. Il a dit effectivement que dans le domaine de la transformation, que nous allons approfondir aussi la réflexion pour voir comment on peut améliorer et répondre justement à la grande demande de la population.
Quelle qualité de main-d'œuvre que vous utilisez ici?
La main-d'œuvre, souvent les mamans que nous formons, c'est avec elles que nous travaillons. Les mêmes personnes qu'on dit parfois démunies, nous essayons de redonner dignité en leur apprenant du travail. Dans nos centres de formation professionnelle, ils viennent, ils apprennent et ils produisent avec nous.
Ma sœur, après avoir vendu, comment vous organisez avec le pain que vous trouvez ici, de tout ce que vous transformez ici?
Le pain que nous trouvons, nous investissons dans les œuvres pour nourrir les enfants abandonnés, pour encadrer ces mamans, ces femmes qui sont en difficulté, ces jeunes désœuvrés, on leur donne quelque chose. Même les enfants qui nous proviennent d'autres provinces, du Sud Kivu par exemple, nous accueillons aussi des enfants qui n'ont pas de parents. C'est pour les aider que nous développons toutes ces activités-là. Et nous sommes heureuses de faire ça. Et si quelqu'un peut nous rejoindre sur ce champ-là, je crois qu'on aura soulagé beaucoup de souffrances, surtout des jeunes et des enfants et même des femmes.
Sœur Marie-Bernard Alima, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est sur ces prouesses de la sœur Marie-Bernard que nous terminons ce journal. Merci à Pelé Kipelamondo, à Élisée Chikota et à Polydor Basunga. Restez toujours branchés sur Radio Okapi.